Radio Kapi. Oh,
Kapi. Patience Ngalula Banangé pour le journal. En Ituri, diminution du taux de prévalence des cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans la zone de santé des Nyakoundé en territoire d'Irumu. Cette amélioration est due à la reprise des activités agricoles par le paysan suite à l'accalmie observée dans la zone et aussi grâce à l'appui des partenaires humanitaires. En Nord-Kivu, les coordinations urbaines des sociétés civiles, forces vives, des villes et des territoires de cette province ont statué sur la dégradation de la situation socio-sécuritaire et économique dans la partie Grand Nord, mais aussi les menaces sécuritaires des ADF et M23 qui pèsent sur ces entités. L'invité de ce jour s'appelle Louis Watoum. Il vient d'être réélu à la tête de la Chambre des mines de la FEC en RDC. Approché par Radio Kapi, il a indiqué que les défis à relever sont immenses. C'est ainsi qu'il compte sur l'implication de tous ses membres pour y arriver. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par cette nouvelle sanitaire. Les taux de prévalence des enfants malnutris de moins de 5 ans a sensiblement baissé dans la zone de santé de Nyakoundé, en territoire d'Irumu. Il passe de 29,8% en 2021 à 6,5% en 2023. Le médecin-chef des zones de santé de cette entité justifie cette amélioration par la reprise des activités agricoles par le paysan suite à l'accalmie observée dans la zone, mais surtout grâce à l'appui des partenaires humanitaires, ce qui permet de prendre en charge ces enfants dont certains souffraient d'anémie. Le docteur Désiré Doabo est au micro de Jean-Claude Lokidile.
En 2022, nous avons connu une baisse parce qu'après une phase d'accalmie, les partenaires ont intégré la zone. Et IRC était venu avec les paquets d'activités de la prise en charge de malnutrition dans la zone. Et à côté de l'IRC, c'était le CICR avec le même paquet de prise en charge de la malnutrition dans les différentes aires de santé qui ont fait qu'en 2021, on avait 29,8% de la prévalence de malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Et en 2022, nous sommes redescendus avec 20,4%. Mais en 2023, nous sommes allés de 20,4% en 2022 à 6,5% en 2023. Parce que c'est Mémis particulièrement qui a implémenté une très, très grande activité de la prise en charge de malnutrition dans la zone. Et au niveau de l'hôpital, on a intégré aussi les services de l'INTI, qui est l'unité institutionnelle de soins intensifs pour la prise en charge de malnutrition avec complications. Avec tous ces paquets qui ont fait qu'aujourd'hui la zone santé a déjà un très bon record dans la baisse des cas de malnutrition au niveau de la zone.
Santé toujours, le programme élargi de vaccination PEV a organisé ce samedi une visite guidée en faveur d'une centaine de pédiatres et infirmiers aux installations du dépôt moderne pour la conservation des vaccins et autres produits médicaux de Kinkolé. L'objectif de cette visite, c'était pour ces professionnels de santé qui sont en contact régulier avec les enfants à vacciner et leurs parents, de s'imprégner de la chaîne des froids et du sérieux avec lesquels sont conservés le vaccin en République démocratique du Congo. Geli Kola, gestionnaire de ces dépôts modernes pour la conservation des vaccins de Kinkolé, revient sur les conditions de conservation des vaccins et les différents compartiments de ce hub médical.
On est passé en visite avec vous. Vous avez vu vous-même les sérieux avec lesquels nous gardons ces vaccins. Et nous voulons par ces messages dire aux parents de faire vacciner leurs enfants parce que deux gouttes sauvent la vie. Ces dépôts modernes comportent des chambres froides. Nous avons 10 chambres froides avec une capacité de 2200 m3. Et nous avons aussi la partie intrasèque avec une capacité de 3400 m3. Vous voyez déjà en termes de volume, nous avons un volume qui peut totalement couvrir la République. Nous gérons pratiquement 15 types de vaccins. Nous avons le Rota, les BCG, les VPI, les VPO, qui est le vaccin contre la polio. Nous avons les vaccins Covid, nous avons les vaccins contre Ebola, nous avons le Rota, nous avons les PCV13.
Gelly Kola, gestionnaire de ces dépôts modernes, s'est exprimé au micro de Jean-Pierre et Lali Ikoko. Le professeur Aimé Mukola, présidente de la Société des pédiatres de la République démocratique du Congo, a exprimé sa satisfaction parce que selon elle, c'est un dépôt qui répond à tous les critères et que son association peut faire passer ses messages aux maires qui ont beaucoup d'hésitations sur la qualité des vaccins. Notons que ce hub médical est l'unique en Afrique centrale. Et puis, le trafic risque d'être interrompu entre Kinshasa, la capitale de la RDC, et la ville de Kikwit dans la province du Kwilu, ainsi que celle de Tshikapa au Kasaï. À la base, la route nationale numéro 1 qui relie ces coins du pays est sur le point de se couper dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Une grosse tête d'érosion s'est dangereusement avancée après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kenge jeudi dernier. Le maire de la ville de Kenge, Noël Kouketouka, invite le gouvernement central à mettre des moyens suffisants afin de finaliser les travaux de construction du collecteur devant recueillir les eaux à cet endroit pour sauvegarder cette route d'intérêt économique très capital. Irène Mbomaluzolo pour plus d'explications.
C'est précisément au niveau du quartier Kikwit dans la commune du 5 mai en pleine ville de Kenge que la route nationale numéro 1 est menacée de coupure, a alerté le maire de cette ville, Noël Kouketouka. Selon lui, la situation résulte d'une érosion préexistante à cette zone qui s'est sensiblement accentuée à cause de la rupture du bassin de rétention d'eau après la forte pluie abattue dans la nuit de mercredi à jeudi sur cette ville. Noël Kouketouka attribue cet état de choses notamment aux travaux non achevé de construction de ces collecteurs il y a de cela quelques mois. Tout en soulignant que cette situation critique pourra s'empirer en cas de nouvelles pluies, l'autorité urbaine tire la sonnette d'alarme auprès du gouvernement central afin de préserver les échanges commerciaux entre Kinshasa, Kikwit et Kasaï sur cette voie routière.
Le plus grand bassin de rétention sur cette route qui a cédé, on avait essayé de colmater, mais le travail n'était pas fini. Et il faut qu'on finance totalement pour qu'on puisse faire un travail fini.
Rappelons que Kenge, chef-lieu du Kwango, étant sur un terrain vallonné, est toujours menacé par plusieurs têtes d'érosion dans presque tous les quartiers et plusieurs habitations ont été détruites à la suite de cette situation. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire, au Nord Kivu, les coordinations urbaines des sociétés civiles forces vives des villes de Beni, Butembo, Goma et des territoires de Beni et Lubero se sont réunies ce samedi en commune rurale de Kiondo dans les territoires de Beni. Objectif, statuer sur la dégradation de la situation socio-sécuritaire et économique dans la partie grand nord de la province en général, mais aussi les menaces sécuritaires des ADF et M23 qui pèsent sur les entités du territoire de Beni, Lubero, Rutshuru et Masisi. Les condensés de leur déclaration avec Marc Marofimbo.
Le pays va mal, déclare les cinq coordinations des sociétés civiles forces vives qui fustigent le silence du gouvernement central et provincial face à la pression rwandaise et ougandaise sur le territoire congolais en dépit de leurs alertes. Les incursions nocturnes et diurnes sont devenues monnaie courante dans plusieurs entités de la province de Nord Kivu, mentionne cette déclaration. Ce qui pousse ces coordinations à interpeller la conscience de toutes les autorités à tous les niveaux, civils comme militaires, pour qu'elles se penchent sur cette question. Les cinq coordinations de la société civile Force Vive demandent au gouvernement de se pencher également sur la question de la gestion du conflit qui oppose la population riveraine du parc national de Virunga à l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN avant que le pire n'arrive. Elles demandent par ailleurs de sanctionner les personnes impliquées dans la destruction du lac Édouard à Kiavinyonge. À la justice, ces coordinations demandent de sanctionner tous les militaires affairistes qui se sont livrés à l'exploitation des ressources naturelles. Pour les coordinations de la société civile, la population doit continuer à collaborer avec les services de sécurité, comme elle le fait toujours, tout en s'interdisant de collaborer avec l'ennemi, conclut cette déclaration. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans la province du Bas-Ouélé, environ un mois après l'arrivée d'un groupe de magistrats et juges dans cette entité, les juridictions judiciaires, notamment la cour d'appel et quelques tribunaux de paix, peuvent désormais fonctionner après plus d'une année de léthargie. Au total, 7 magistrats ont été affectés dernièrement dans les Bas-Ouélé par les conseils supérieurs de la magistrature. Les points avec Jacques Mkonkole.
Parmi les 7 magistrats affectés dans le Bas-Ouélé, on compte le premier président de la cour d'appel, 2 présidents ainsi que 3 conseillers pour la même juridiction. 3 autres magistrats pour les juridictions du Bas-Ouélé se trouvent présentement à Kisangani en partance pour Bouta afin de rejoindre leur nouveau poste d'attache. L'arrivée de ces magistrats à Bouta augure une nouvelle ère dans l'administration de la justice dans cette entité. En effet, depuis plus d'une année, ces juridictions n'ont plus fonctionné faute de juges. La plupart de ceux qui étaient affectés retournés à Kinshasa pour diverses raisons. En réalité, explique-t-on dans les milieux judiciaires de Bouta, il s'agissait pour eux de se retirer de ces milieux afin d'échapper aux conditions de vie difficiles dans cette entité. Avec l'arrivée du premier président Fidel Mbemossi et ses 2 collaborateurs, la cour d'appel du Bas-Ouélé peut désormais fonctionner normalement. Outre les dossiers en souffrance, ceux relatifs aux contentieux électoraux issus des élections de décembre 2023 attendent impatiemment d'être examinés. Par ailleurs, souligne le greffier de la cour d'appel, sur les 6 territoires qui comptent le Bas-Ouélé, 3 seulement sont pourvus de juges dans leurs tribunaux de paix. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en province du Maniema, l'Institut supérieur d'informatique de gestion d'entreprise, ICG Kindu, a tenu ce samedi 24 février une conférence débat sur les nouveaux modes d'évaluation des enseignants et des apprenants dans les systèmes licence, master, doctorat, LMD. Au cours de cette conférence, selon les organisateurs, il a été question d'insister sur la nécessité pour les enseignants et étudiants de bien connaître les innovations de ces nouveaux systèmes. Il a été recommandé au gouvernement de mettre à la disposition des enseignants un module de contenu, des moquettes, des cours et que ça soit uniforme sur l'étendue de la République pour voir l'avantage du système LMD. Florence Kizalunga, reportage.
Selon l'orateur du jour, depuis sa création en RDC, le système LMD n'a pas encore avancé. Voilà pourquoi il est important de faire l'évaluation. Le CT Augister Shindano propose la formation des enseignants.
Il faudrait que le personnel enseignant puisse accéder vraiment à une formation par rapport à l'évaluation qui cause déjà des problèmes malgré le manque de certains outils, mais on essaie d'évoluer chaque institution avec ses façons de faire, parce que dans l'ancien temps, l'évaluation n'était concernée que par l'enseignant qui évalue les étudiants, mais dans le nouveau système, il y a un feedback, les étudiants doivent aussi évaluer les enseignants.
Après cette conférence, les participants, surtout les enseignants, se sont engagés à améliorer leur manière d'évaluer. Le CT Clément Kayumba est l'un d'eux.
Une très bonne conférence qui a été très bénéfique pour nous, participants, tout simplement parce que après cette conférence, moi je pense que et les enseignants et les apprenants ont la même compréhension sur le mode d'évaluation aujourd'hui dans le système LMD. Et nous sommes obligés de changer notre façon de faire dans le cadre des évaluations.
Cette conférence débat s'est clôturée par le jeu des questions et réponses. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
À l'occasion de son 22e anniversaire, la Radio Okapi a promené son micro pour se faire une idée de son importance dans la vie des habitants de la région de Beni. Si pour certains, la Radio de la Paix livre des informations fiables à travers ses différentes éditions, dont certaines sont par ailleurs éducatives, pour d'autres, la Radio Okapi sert d'instrument de promotion des jeunes entrepreneurs. D'autres encore pensent que la radio onusienne constitue une source d'information pour bien d'autres radios. Guylaine Kassassia a interrogé certains, voici leur point de vue.
Pour se former, il faut se ressourcer à la Radio Okapi. Et pour les radios même locales, elles tirent même d'autres informations à partir de la Radio Okapi pour se rassurer que les informations sont bien sûres, incertaines. La Radio Okapi, elle est sûre parce qu'elle est d'abord nationale. Et là aussi, des journalistes formés.
La radio diffuse les informations dans les langues locales. Ça nous fait vraiment du bien.
Radio Okapi, c'est un outil de plaidoyer que nous avons utilisé à plusieurs reprises en tant que des jeunes leaders d'opinion dans nos communautés de base. Moi qui vis à Beni, par exemple, il y a certaines réponses qui sont données par les dirigeants ou par les partenaires même du gouvernement congolais, tout simplement parce que ils ont pu comprendre l'ampleur d'une certaine problématique présentée à travers le canal de la Radio Okapi.
Cet outil de communication m'a permis de pouvoir étendre mes projets, dans le sens où elle m'a aidé à pouvoir accéder à certaines zones auxquelles je ne pensais pas accéder, notamment certaines villes de la République qui ont pu entendre parler de nous grâce à cet outil de communication.
De son côté, depuis la ville de Goma, au Nord Kivu, l'artiste, musicien et défenseur des droits humains à travers la musique, Mac El Sambo, a tenu lui aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à Radio Okapi. Il a lui aussi plaidé pour sa pérennisation. Il est joint par Jean-Marc Matwaki.
Je souhaite un heureux anniversaire à la Radio Okapi pour ses 22 ans. Radio Okapi, au fait, pour nous, a été une radio qui nous a balancé tous les sons des cloches des différentes personnalités qui nous dirigent. Radio Okapi, ça a été une radio qui nous a aidés à nous éduquer, qui nous a informés sans parti pris. La Radio Okapi, pour nous, artistes, moi, comme musicien, m'a beaucoup aidé. Nous remercions, au nom de tous les musiciens du Nord Kivu, la Radio Okapi pour cette faveur. Pour ça, nous remercions infiniment du fond de nos cœurs ce travail, cette promotion internationale que la radio nous fait. Nous pouvons souhaiter pour la Radio Okapi les meilleurs du monde. Nous avons appris que la MONUSCO va partir. Nous aimerions que, même si la MONUSCO part, que la Radio Okapi reste là, que la Radio Okapi ait d'autres bailleurs qui vont évoluer dans la même philosophie, dans la même idéologie et dans la même ligne éditoriale pour permettre au peuple congolais d'être informé, pour permettre aux artistes que nous sommes d'avoir une promotion, d'avoir une visibilité, d'avoir une vitrine.
Actualité internationale.
Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a déclaré dans un nouveau rapport vendredi que des dizaines de personnes, y compris des enfants, ont été victimes de viols et d'autres formes de violences sexuelles dans le cadre du conflit en cours au Soudan, des agressions qui pourraient être assimilées à des crimes de guerre.
L'invité.
L'invité de ce jour s'appelle Louis Watum. Il vient d'être réélu à la tête de la Chambre des mines de la FEC en RDC. Approché par Radio Okapi, il a indiqué que les défis à relever sont immenses. Pour y parvenir, il compte sur l'implication de tous ses membres. Louis Watum s'entretient avec Jean Gandou.
Louis Watum, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous venez d'être réélu à la tête de la Chambre des mines. Sous quel signe placez-vous votre nouveau mandat?
D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont renouvelé leur confiance en moi. Et quant au nouveau mandat, c'est essentiellement sous le signe de la redynamisation des activités de la Chambre des mines. Vous savez que le secteur minier, c'est le secteur qui paye les factures de la République. C'est un secteur qui est important, mais qui, à mon avis, ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer, ou du moins pas au niveau qu'il devait le faire. Et donc, il faut redynamiser tout ça. Il faut que ça devienne un acteur réel de l'économie de notre pays et que nous puissions réellement aboutir à créer des richesses pour toutes les parties prenantes dans notre pays.
Lors de l'exercice passé, quels sont les différents écueils que vous avez épinglés et pour lesquels vous devriez apporter des solutions?
Vous savez, les écueils sont nombreux. Il y a d'abord le déficit énergétique, il y a le déficit d'infrastructure, il y a cette fiscalité, cette parafiscalité qui sont très difficiles à supporter et qui plombent la trésorerie de nos entreprises. Mais il y a également les facteurs de géopolitique. Au niveau national d'abord avec la guerre à l'Est, mais également au niveau international avec la guerre en Ukraine et bien d'autres facteurs tels que le réchauffement climatique et autres. Tous ces facteurs ont un impact direct dans notre secteur. C'est ça les défis que nous rencontrons.
Comment contourner ces différentes difficultés?
Nous n'avons pas d'autre choix que resserrer nos rangs et engager un dialogue franc et sincère avec les différentes parties prenantes au niveau de la tripartite entre le gouvernement, les opérateurs miniers et la société civile. Il faut que chaque partie prenante comprenne qu'elle n'a pas que des droits, elle a aussi des obligations. Et chacun doit jouer sa partie.
Nous savons que le problème du déficit énergétique n'est pas nouveau et même la parafiscalité n'est pas aussi nouvelle. Et parce que vous avez déjà fait face à toutes ces différentes difficultés, mais quel est le levier en fait sur lequel vous allez vous appuyer pour que cela change?
C'est vrai, nous avons une industrie qui est résiliente, hein, qui part de record en record de production. Nous sommes aujourd'hui classés 3e mondial en production de cuivre, après le Chili et le Pérou, à près de 2,5 millions de tonnes de cuivre l'an. Mais cela ne doit pas cacher ou occulter le fait que nous avons tous ces problèmes et il faut s'attaquer à ces problèmes. Parce que ce pays est capable de jouer dans la ligue des 5 millions de tonnes de cuivre lent et plus, pour peu que nous puissions faire sauter ces verrous-là. Il est important qu'on le fasse, parce que ce pays, avec la dotation minérale qu'il a, mérite de jouer dans la grande division d'honneur.
Et pour l'instant, la production annuelle est de combien, notamment du cobalt?
Le cobalt, nous sommes à un peu plus de 150 000 tonnes de cobalt lent. Le cuivre à 2,5 millions de tonnes l'an. L'or, un peu plus de 30 tonnes l'an. Coup de chapeau à l'or artisanal aussi, qui pour la première fois atteint 5 tonnes l'année dernière, alors que l'année d'avant, c'était à peine 42 kilos pour toute la République, rendez-vous compte. Voilà donc les quelques performances que nous faisons. Mais cela n'est encore rien par rapport à la dotation minérale de notre pays. Nous pouvons faire mieux. Mieux, pas seulement en termes de volume de production, mais en termes de bonne gouvernance et d'administration du secteur minier. J'ai toujours dit à tous les capitaines de l'industrie et à nos dirigeants, le but ultime de faire du mining, ce n'est pas de faire faire de l'argent en réalité. L'argent n'est qu'un moyen pour atteindre le but ultime, qui consiste à créer des richesses, à les partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes, pour plus de justice sociale et pour la plus grande gloire de Dieu.
Il y a toujours aussi une épine sur la gorge des miniers, c'est notamment l'exploitation artisanale qui fait que les artisanaux très souvent vont dans les installations des miniers. Et ça porte un coût dur, n'est-ce pas, pour les investissements étrangers. C'est un problème récurrent. Et comment le contourner ?
Mais nous devons nous regarder en face et se dire que l'exploitation artisanale n'est qu'un palliatif à très court terme. À long terme, ce n'est pas quelque chose de durable. Pour une simple raison, un artisanal minier ne part pas en grande profondeur. Il écume en surface, puis passe à une autre surface. Et il stérilise les ressources qui sont dans le fond, au détriment de l'avenir du pays. Et donc nous devons absolument diversifier notre économie. Nous devons investir dans le capital humain que nous avons. C'est une jeunesse âgée de 15 à 35 ans dans laquelle il faut beaucoup investir pour qu'elle aille dans différents corps de métier et que graduellement elle sorte de ce secteur-là. Ce n'est pas un secteur porteur à long terme.
Mais ce que vous dites là, c'est à long terme. Mais les gens qui sont habitués à avoir l'argent assez régulièrement, les amener à attendre 5, 10 ans, ne pensez-vous pas que ça paraît comme une bataille perdue d'avance?
Tout long voyage commence par un premier pas. Et le premier pas consiste à faire un certain nombre d'actions. C'est s'engager dans une politique des grands travaux, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans tous les autres secteurs de l'économie, et commencer petit à petit à déverser ces artisanaux miniers dans ces différents secteurs-là qui sont tout aussi rémunérateurs. Il faut commencer quelque part et puis avancer.
Luatoum, je vous remercie.
Je vous en prie, merci.
Et c'est par ici que je mets un point final à ce journal sur Radio Okapi, mis en onde par Alain Goy, sous la supervision et coordination de Noëlla Luzitu Kabambi, au micro Patience Ngalula Banangé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.